si on se réfère au code du statut personnel, donc qui était imposé par Bourguiba en 56 et qui a représenté donc jusqu'à un certain moment une avancée énorme pour les femmes. Donc entre autres, il a instauré le principe de l'égalité homme-femme, abolissé la polygamie, il instituait le divorce, donc beaucoup d'avancées, notamment en comparaison avec le monde arabo-musulman. Donc c'était des acquis énormes. Ensuite, même sous l'ère de Ben Ali, il y a eu aussi des avancées législatives qui ont complété ce code du statut personnel. Par exemple, la pénalisation de l'harcèlement sexuel, la fixation de l'âge minimum du mariage pour les femmes à 18 ans comme celui des garçons, parce qu'à un certain moment, ce n'était pas le même âge pour le mariage. Le renforcement aussi du droit de logement pour les mères divorcées ayant la garde d'enfants mineurs. La possibilité pour les femmes aussi et pour les hommes de transmettre la nationalité à leurs enfants. Donc, parmi les avancées en matière donc, des droits de femmes, l'IVG, donc l'interruption volontaire de la grossesse, a été légalisée en Tunisie en 73. Donc, ça remonte à très, très loin. Donc, cependant, il y a la législation, il y a le droit, mais il y a aussi certains côtés dans ce code du statut personnel qui sont quand même, qui restent pas très favorables aux femmes. Donc, en matière d'autorité parentale, l'homme demeure le chef de famille. Donc, et par exemple, c'est à lui que revient le choix de lieu de résidence pour le couple. En matière de divorce, une femme perd la garde de ses enfants si elle se remarie, alors que son ex-mari, s'il se remarie, non, il peut garder donc la garde des enfants. En matière d'héritage, la question a été évoquée, l'homme a une part double à celle de la femme. Donc tous ces côtés-là sont quand même existants. En matière pénale aussi, l'auteur d'un viol peut échapper aux poursuites judiciaires s'il épouse la victime. En matière pénale toujours, dans le cas de violences domestiques, le désistement du conjoint victime suffit à arrêter donc, les poursuites ou le procès ou l'exécution de la peine du conjoint agresseur. Donc, la législation est une chose et les pratiques sociales sont toute une autre histoire. Parce qu'il y a un écart considérable, surtout dans les milieux sociaux les moins favorisés, entre les dispositions légales favorables aux femmes et la réalité. Donc, il y a aussi, et ça je me réfère à l'association des femmes démocrates en Tunisie, qui ont constaté par leurs enquêtes et travaux que même la magistrature était réticente à l'application du code du statut personnel. Au niveau aussi des réalités, c'est que beaucoup de femmes ne recourent pas à leurs droits, soit parce que tout simplement elles les ignorent, soit parce qu'elles ne sont pas convaincues dans certains cas de la légitimité de ces droits, ou soit donc parce que la pression familiale et sociale les pousse à y renoncer. Donc pour conclure, pour moi la société tunisienne reste en effet largement conservatrice en ce qui concerne l'image de la femme et de son rôle social. Il y a une grande persistance de la domination masculine, de la mentalité patriarcale, du machisme dans tous les secteurs de la société, donc au niveau de la vie politique, au niveau des institutions, de l'emploi, etc. Autant étudier et travailler sont donc devenus des acquis, et ça c'est la nécessité économique oblige, autant pour les autres aspects des droits de la femme, la situation laisse à désirer. Donc il y a vraiment de vrais problèmes. Si on revient à cette image de la société, donc encore une fois, une étude récente qui date d'il y a quelques semaines de l'Association tunisienne des femmes démocrates a montré qu'au niveau des médias, donc, il y a un vrai problème de misogynie véhiculé par les médias en Tunisie. Donc c'est pourquoi, pour moi, le combat des femmes tunisiennes pour l'égalité réelle se déroule sur le plan, autant sur les plans des pratiques que sur les représentations sociales et le plan juridique. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que ce combat, il transcende au fait dans une très large mesure les clivages politiques et qu'il ne se confond pas ou en tout cas pas forcément avec le combat pour un État séculier ou avec des luttes pour l'élargissement des droits économiques et sociaux en général. Parce que les gens qui refusent le projet islamiste dans ses différentes versions ne sont pas pour autant toujours du côté de l'égalité des femmes et des droits, de ses droits, du moins si l'on considère les pratiques et pas uniquement les paroles, parce qu'au niveau des paroles, on est tous très féministes. Par exemple, si je reprends l'exemple qui a été dit tout à l'heure par rapport la parité au niveau du code électoral après la Révolution. Donc cette parité a été rendue obligatoire, mais le résultat, on n'a eu que 7% de femmes tête de liste, ce qui explique aussi par la suite donc, le nombre de femmes. Madame Bakar l'a très bien expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, le seul parti qui a respecté la parité au niveau des têtes des listes, c'est le Pôle démocratique moderniste, donc le parti de Madame Bakar. Donc c'était le seul parti qui a vraiment respecté cette loi. Un autre exemple, donc, la centrale syndicale UGTT, donc moderniste, progressiste, etc., mais qui, jusqu'en 2011, je n'ai pas les chiffres actuels, ne comptait dans son bureau exécutif aucune femme. Il n'y avait pas de femme. Il n'y avait que 1% des femmes dans les bureaux des différentes fédérations. Et même dans le bureau de la Fédération de l'industrie du textile, où 70% des travailleurs sont des femmes. Il n'y avait donc dans ce bureau que 3 membres sur 9. Donc pour vous dire la place des femmes dans les institutions. Donc, en tout cas, au niveau de la conjoncture, au niveau de la transition, la révolution a motivé les femmes pour revendiquer et agir pour élargir leurs droits, pour concrétiser leurs droits et pour être plus présentes dans la sphère politique. Mais la situation actuelle, la difficulté du combat pour l'égalité des femmes, et au fait, elle réside en partie dans l'enchevêtrement très complexe et mouvant de luttes qui se développent sur des terrains très différents, mais qui ne sont pas dissociables dans la pratique. Toutefois, il faut quand même savoir distinguer leur logique propre. Si on prend le terrain politico-identitaire et la question religieuse, donc développée par Madame Béji, on ne saurait donc nier l'importance, la réalité, le caractère brûlant du débat en cours sur la place de la religion dans la société et dans l'État. Ça, c'est... Mais il est certain aussi qu'une partie, au moins de la population, adhère au projet islamiste, moins pour des raisons proprement religieuses que parce qu'il légitime le conservatisme social, notamment et peut-être même surtout en ce qui concerne la place, le rôle et les droits des femmes dans la société. Mais beaucoup parmi les électeurs et les électrices d'Ennahda, et j'ai dans ma famille des femmes qui ont voté Ennahda, beaucoup de ces électeurs et d'électrices n'ont pas donc voté pour des candidats de ce parti parce qu'ils souhaitaient une islamisation ou une réislamisation de la société, mais parce qu'ils pensaient que ce parti serait le plus à même d'en finir avec la corruption ou qu'il mènerait une politique sociale généreuse. Ça, c'est une chose. Donc, il serait sans doute donc, un peu rapide de considérer que cette part de l'électorat a forcément manifesté par le vote d'octobre 2011 un désir de retour en arrière en ce qui concerne les droits des femmes. Mais, donc, ça, c'est le terrain politico-identitaire, etc. Il y a un autre aspect, un autre terrain, et c'est le terrain des revendications socio-économiques. Donc, question d'emploi, de développement régional, de salaire, de droits syndicaux, etc. Il ne faut surtout pas l'oublier, ce sont là des questions qui sont indiscutablement prioritaires aux yeux d'une grande partie de la population, prioritaires y compris pour la population féminine. Car il ne faut pas... il faut surtout se poser la question des conditions socio-économiques qui rendent possible l'exercice des droits juridiques. Donc, parce que pour les femmes vivent des situations très complexes et très pénibles. Donc, la femme qui travaille, on a la fameuse double journée. Donc, la journée professionnelle, mais quand elle rentre chez elle, elle a la journée domestique, elle a l'éducation des enfants, elle a le ménage, elle a la garde des grands-parents, etc. Les femmes qui travaillent donc, dans le milieu rural, elles ont des journées de travail interminables de 6h du matin à 6h du soir pour un salaire qui est l'équivalent de 4 à 5 euros par jour. Donc, ça, c'est aussi une réalité accablante pour les femmes. Donc, et dans la situation économique, dans ce marasme économique qui a suivi la Révolution, il y a une autre réalité aussi accablante, c'est que ce sont les femmes qui sont les plus touchées que les hommes par le chômage, par la précarité, par la pauvreté. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc, dans ce contexte, il faut être vigilant. La vigilance, elle porte sur plusieurs aspects. Donc, vigilance, d'une part, pour éviter que le combat spécifique des femmes pour l'égalité ne fasse pas, comme au temps de Ben Ali, l'objet de récupération dans le cadre d'autres combats, quelle que puisse être donc, la légitimité de ces derniers. Car le combat des femmes, s'il est récupéré politiquement, il risquerait de perdre une bonne part de sa substance. Cela dit, il semble que le seul garant possible donc, de l'égalité de tous les citoyens, c'est un régime séculier. Et donc, de ce point de vue-là, le combat pour l'égalité est indissociable du combat pour la démocratie. Donc, ça va de pair. La vigilance aussi devrait être, d'autre part, pour éviter que malgré une mobilisation réelle et forte, donc le cas du 13 août dernier, la mobilisation de la société civile dont parlait Madame Bakar, donc que cette mobilisation pour l'égalité des droits des femmes dans tous les domaines paraissent pour certains moins urgentes. Donc, et que ça soit, comme on dit toujours, on reporte ça à plus tard. Le combat n'est pas aussi prioritaire que ça. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes militantes en Tunisie déplorent que actuellement, elles se retrouvent réduites se combattre, à se mobiliser pour préserver le simple maintien des acquis. Donc, on fait pas plus, on essaye de garder le minimum qu'on avait. Donc, voilà, grosso modo pour moi, la lecture que je fais de la situation des femmes et du combat que les femmes doivent mener. Bah, pour certains, ça va vous paraître peut-être un tableau pessimiste. Pour moi, il n'est ni pessimiste ni optimiste. C'est tout simplement que c'est une lecture plus, je dirais, réaliste, que le combat des femmes pour qu'il puisse aboutir, donc pour qu'on puisse réussir ce combat, on a besoin d'être déterminés. Et ça, les femmes tunisiennes sont, comme disent le poète, des femmes et demie. Elles sont là et elles vont continuer. Mais il faut aussi prendre ce combat avec, dans toute sa complexité et dans tous les aspects qui donc le rendent un peu difficile à mener, mais voilà, qui permet de réussir. Voilà, et merci.
Merci. Merci, Zeynep Benachou. Alors maintenant, on a un peu de temps pour un débat qui sera animé par Baudouin Loz, qui est journaliste au Soir et qui connaît vraiment bien la Tunisie. Et voilà, je voulais à nouveau dire que je suis contente qu'il y ait des collègues parlementaires qui soient présentes. On a été rejoints par une sénatrice bien connue qui est Maria Arena, qui est là, peut-être, voilà, Marie, comme ça tu montres, oui, qui est sénatrice du Parti Socialiste. Évidemment, plusieurs fois ministre, aussi autant au niveau fédéral que ministre-présidente de la communauté française. Et s'il y a bien quelqu'un que je connais qui n'a aucun doute sur le fait qu'elle soit féministe, je pense que c'est Maria Arena. Voilà, donc ce sera intéressant de l'entendre sur ce débat-là et d'autres choses. Baudouin Loz, à toi la parole.
Merci. Juste un petit mot sur un petit peu ma façon d'avoir rencontré la Tunisie. J'avais été une première fois en reportage en 92, et j'avais pris rendez-vous avec Monsef Marzouki, qui était à l'époque président de la Ligue des droits de l'homme. Il vient à mon hôtel, c'était l'hôtel Africa, parce que je ne connaissais pas encore grand-chose, donc j'avais pris le plus connu. Et il me dit, on est en bas dans le lobby, il me dit, montons dans votre chambre. Déjà un peu autoritaire d'ailleurs. Bon, on monte dans la chambre, et il met la télévision à fond, mais vraiment très fort, quoi. Et il dit, maintenant on peut commencer à discuter. Je dis, mais quoi? Et sinon, il y a des espions partout, il y a des micros partout, etc. Donc, pour vous dire, ce monsieur maintenant est président de la Tunisie, donc ça montre un peu... ça montre un peu l'évolution qui s'est passée en un peu moins de 20 ans. Et bon, j'ai connu beaucoup d'hommes et de femmes en Tunisie pendant toutes ces années-là qui ont combattu la dictature. Je vais citer trois femmes peut-être, parce que dans ce contexte ici, qui sont des amies: Siem Ben Sedrine, la journaliste, l'avocate Radia Nasraoui, très connue, quand même une femme politique, Maya Gerbi, parce que je la connais un petit peu. Voilà, c'est vous dire si le 14 janvier 2011, moi j'étais dans ma voiture, je me souviens, j'étais pas à Tunis malheureusement, j'avais pas pu y aller, et à 18h35, si je me souviens bien, j'écoutais la RTBF, la radio nationale, et il y avait un débat politique sur la politique belge. Ils ont fait un flash spécial en disant, voilà, le président Ben Ali a pris l'avion et a quitté Tunis. Et j'ai vraiment eu une larme à l'œil, parce que, bon, c'était quelque chose pour moi qui était vraiment, pas l'aboutissement d'un combat, parce que j'avais aucun mérite, mais comme je connaissais beaucoup de Tunisiens et de Tunisiennes pour qui c'était vraiment quelque chose de capital, bah, j'ai eu ce partage comme ça tout seul dans ma voiture. Et j'étais vraiment ému. Alors maintenant, c'est vrai que depuis lors, les événements se sont succédés, et qu'on s'aperçoit, comme l'a dit quelqu'un ou quelqu'une, que les choses sont vraiment pas simples, et qu'il y a même risque tout à fait réel de régression. Moi, je dois dire que l'assassinat de Chokri Belaït est évidemment extrêmement, extrêmement choquant. Ce qui, par contre, était extraordinaire, c'est la réaction des gens, et j'en veux pour preuve les centaines de milliers de gens qui étaient là à son enterrement. Je pense que, et quelques jours plus tard, Narda a voulu faire une manifestation, ils ont réuni 15 000 personnes, contre des centaines de milliers de Tunisiens, je pense de toutes conditions, qui sont venus extrêmement émus, choqués, révoltés, et je dois dire que ça symbolisait, enfin ça symbolise dans mon esprit le fait que le combat démocratique est vraiment loin d'être perdu. J'ai trouvé l'intervention de Mme Béji un tout petit peu pessimiste peut-être. Par exemple, c'est vrai qu'il n'y a que 50% des gens qui ont voté le 23 octobre 2011, mais n'empêche que nous n'avons que 89 députés islamistes sur 217. Ça veut dire qu'il y a quand même encore une majorité d'étudiants qui n'ont pas épousé ces idées-là. Quand bien même, d'ailleurs, comme vous l'avez dit très honnêtement à la fin de votre intervention, une partie des députés Narda n'est peut-être pas aussi rétrograde qu'on pourrait le penser. Sans doute une petite partie, mais ils existent. Et j'en connais. Donc voilà, on va lancer les interventions. Je vais peut-être donner la parole aux quelques députés bruxellois qui sont présents, et puis ensuite n'importe qui d'entre vous peut évidemment se manifester, poser une question, faire une intervention, pas trop longue s'il vous plaît, on a pris un peu de retard, et en donnant si possible son identité avant. Donc je crois que Madame Berthiaud a dû quitter la salle. Voilà. Alors, peut-être que Madame Sidi Bé peut éventuellement, si elle veut intervenir, je ne sais pas.
Eh bien, bonjour à l'Assemblée, bonjour tout le monde. Et cette journée est vraiment édifiante, intéressante dans le contexte d'aujourd'hui, effectivement, à la veille, la journée de la femme. Et donc, moi, je remercie vraiment l'apport apporté par les différents intervenants qui sont là. Moi, je voudrais apporter simplement une réflexion personnelle dans un contexte peut-être plus large. Et c'est vrai que par rapport à ce printemps arabe qui, pour certains, se transforme en un hiver qui est quand même long et sombre et qui a mis à jour dans beaucoup de pays non seulement des régressions déjà existantes, mais qui a également dans certains pays mis en scène un retour en arrière, et pas seulement dans les pays du Moyen-Orient, pas seulement dans les pays maghrébins, mais également ici en Europe et dans certains pays d'Afrique. Et je m'en voudrais de ne pas, dans ce contexte-là, faire référence au Mali, donc le pays dont je suis originaire. Un pays laïque, hein, qui s'est toujours dit laïque, un pays où il y a 90% de musulmans, un pays, un islam tolérant, ouvert, et qui se retrouve propulsé dans une régression obscurantiste. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un effet collatéral, n'est pas seulement ça du printemps arabe, hein, mais également de l'effondrement de ce régime libyen qui a propulsé ce pays avec une situation économique, sociale déjà très difficile, dans un chaos au tel point que le nord du pays a été coupé en deux, et dans ce nord du pays où les femmes du nord sont des femmes qui ont toujours été beaucoup plus libres qu'ailleurs, se retrouver sous le coup de la charia avec toutes les violences que ça comporte, lapidation, amputation et j'en passe. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Évidemment, on pourrait croire que du jour au lendemain le Mali s'est retrouvé dans un contexte pareil, mais non, puisque depuis une vingtaine d'années on constate cette régression qui s'est mise en place, on constate je ne serai pas très longue, mais je pense que c'est important que je témoigne également de cet aspect-là. On a remarqué effectivement ces pétrodollars qui ont importé ce wahhabisme, cet islam radical qu'on a voulu imposer à la société. Et un épisode par rapport aux droits des femmes, on parle du code de la famille. Et au Mali, on sait bien qu'en 2009, le président a voulu modifier le code de la famille pour l'adapter au traité internationaux. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une telle mobilisation du Haut Conseil islamique. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça, que le président a eu peur. Au nom de la paix nationale, il a renvoyé le texte aux députés pour le révisionner. Le texte a été revu et on a mis là-dedans les demandes du Haut conseil islamique et le Mali a été régressé en 20 ans en arrière. Donc c'est un contexte qui est là aujourd'hui et c'est pour dire que ce contexte-là est très important. Madame disait que ce qui est avec l'islamisme incroyable, c'est qu'il désagrège les frontières nationales. Il n'y a plus de frontières. Il y a un idéal de régression qui est là. Et pour revenir à la Tunisie, c'est vrai qu'on aimerait croire que ce pays-là va quand même sortir de ce chaos, un pays où depuis 50 ans, il y a une résistance citoyenne qui s'est mise en place. Et moi, j'ai quand même une question qui me tarabuste, hein, parce que si effectivement aujourd'hui, en Tunisie, l'antiféminisme, c'est en quelque sorte le rejet du régime de Bourguiba, que ces femmes sont associées à un régime de dictature, de tyrannique. Ma question est, mais comment faire effectivement pour en sortir? Et deuxièmement, madame m'avait parlé de l'importance des Tunisiens de l'étranger dans ce processus démocratique. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce qu'ils sont associés justement à ce travail qui est fait dans leur pays d'origine. Et je pense que je vais m'arrêter là simplement pour dire qu'on doit être attentif effectivement à ces effets collatéraux et que ce qui se passe en Tunisie, c'est ce qui se passe également dans beaucoup de pays et qu'ici en Belgique, on doit également penser que cette régression-là également présente dans nos pays. Je vous remercie.
Merci. Est-ce que Madame Maria Arena voulait parler?
Merci. Merci tout d'abord au Parlement bruxellois francophone et particulièrement à Julie de Groot d'avoir organisé effectivement ce débat. Et je suis aussi ravie de voir des jeunes dans le cadre présent ici. Parce que ça leur montre aussi à quel point les acquis qui sont souvent acquis de dures luttes, qui sont les luttes féministes, sont souvent des acquis fragiles et qui peuvent sans aucune difficulté faire marche arrière. Ça concerne bien entendu les pays tels que la Tunisie, mais ça nous concerne aussi. Il y a aussi des forces conservatrices en Europe et qui voudraient faire en sorte que les femmes aient moins de droits. Et donc, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes. Souvent, quand on les rencontre, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est évident et pour lequel il ne faut plus se battre. Donc, je les rends particulièrement attentifs à cette question de la femme et de l'égalité entre les genres. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, l'égalité des esprits. Parce que l'on soit femme, homme, que l'on soit blanc, noir, que l'on soit originaire européen ou pas, que l'on soit d'une religion autre, eh bien, il y a une universalité que nous devons défendre, universalité de droit, et nous comptons bien entendu aussi sur vous pour défendre ces valeurs. Alors, en ce qui concerne la révolution tunisienne, moi, j'avais beaucoup travaillé déjà à l'époque, avant même la question de la révolution, parce que je trouvais que l'Europe, et particulièrement les pays dits laïcs en Europe, fermaient un peu trop les yeux sur ce qui se passait en Tunisie. Et c'est vrai qu'au nom de la liberté de la femme, du droit de la liberté de la femme en Tunisie, eh bien, nous avons fermé les yeux sur la dictature. Et je pense que là, il est important que nous fassions notre propre, je dirais, examen de conscience pour peut-être aussi vous accompagner maintenant et ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous avons réalisées dans le passé. Donc, ma question par rapport à nos amies tunisiennes, c'est de dire, mais qu'attendez-vous de nous aujourd'hui, nous, Belges, élus dans des parlements, quels qu'ils soient, pour vous soutenir dans votre lutte actuelle, parce que vous êtes toujours dans cette lutte. Et j'ai envie de dire que la révolution ne sera une évolution que quand le droit des femmes sera garanti. Tant que ce droit des femmes ne sera pas garanti dans ces pays, eh bien la révolution ne sera pas une évolution. Et c'est dans cela que nous voulons vous aider, mais nous avons aussi besoin que vous nous fassiez des signes, c'est-à-dire non seulement des soutiens à la société civile, bien entendu, mais aussi, et j'ai bien aimé la question du soutien plus institutionnel, comment soutenir de manière beaucoup plus institutionnelle l'évolution que nous vivons aujourd'hui en Tunisie. Et nous sommes, bien entendu, près de vous pour le faire. J'étais hier au Parlement européen pour discuter de cette question et est venue à côté de moi Malika Hamadi, qui est la représentante des femmes musulmanes. Et je dois vous avouer qu'il n'y avait pas... il n'y avait rien qui nous distinguait dans ce que nous voulions en tant que féministes. Et donc, j'ai aussi envie de dire ici, on peut être musulmane et féministe. Il faut arrêter d'opposer ces deux conceptions. On peut être musulmane et féministe, on peut être voilée et féministe. Il faut vraiment donner cette capacité-là aux femmes parce qu'on a tendance, nous, à opposer ces deux concepts et à nous, les femmes, de nous rassembler. Quand on essaye de nous diviser, nous, les femmes, eh bien, on n'arrive pas à atteindre l'objectif que nous poursuivons d'égalité. Et donc, rassemblons-nous, travaillons ensemble sur cette question de l'égalité, que l'on soit musulmane, laïque ou autre, et il faut qu'on puisse avancer sans être les faire-valoir des hommes. Merci.
Merci. Je donnerai la parole à Madame Nadia El-Youssoufi, qui, si je ne m'abuse, a fait partie de la mission parlementaire en novembre de l'année passée en Tunisie.
Tout à fait. Merci. En tout cas, encore un grand merci, en tout cas par rapport à nos oratrices qu'on avait pu rencontrer déjà un peu auparavant et avoir eu des discussions qui étaient aussi riches que celles qu'on a eues aujourd'hui. Et évidemment, je faisais partie, donc, en tant que membre du bureau du Parlement francophone pour notre voyage en Tunisie. Et ce voyage...